vous invite à vous lever. Et qui est comparable à l'Éternel notre Dieu, qui a sa demeure dans les lieux très hauts, qui est comparable à l'Éternel notre Dieu, il a sa demeure dans les lieux très hauts, et il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il installe en sa maison la femme stérile, afin qu'elle puisse y connaître la joie d'être mère de nombreux enfants. Qui est comparable à l'Éternel? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre.
Tu m'as encore prié de nous remettre à toi, nous te confions les enfants, Seigneur, qui descendent, et tu as ouvert nos cœurs d'être réceptifs à ta voix. Et maintenant, nous désirons recevoir de toi ce que tu veux nous dire. Nous croyons que tu as des paroles de vie à nous transmettre. Accorde-nous de les recevoir au nom de Jésus. Amen. Déjà dimanche dernier, on a signalé qu'on prolongeait un peu notre regard dans le livre des Actes, livre où nous nous sommes arrêtés pendant la période de l'été, dans nos cultes partagés. Et dimanche dernier, on a considéré ce qui peut nous tirer en avant. On est dans la période de la reprise. Et on a vu pour l'apôtre Paul, c'était ça, cette parole, tu iras à Rome. Et à travers les ouragans, les inconvénients, l'opposition, à Rome, il est allé. Rien n'a pu l'empêcher dans ce projet. Cette semaine, j'aimerais considérer un autre aspect des choses, d'une reprise. Roger en a fait allusion dans le sens qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher de voir la grandeur de Dieu. Et une reprise, c'est l'opportunité de mettre les compteurs à zéro. De considérer ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant, et trouver les solutions. Et j'aimerais aborder le sujet sous trois titres, avec mes excuses aux médecins parmi nous. Le danger de l'infection, le choix de traitement et l'offre de guérison. Danger d'infection, choix de traitement et l'offre de guérison. Et nous retournons donc dans les Actes, chapitre 5, le contexte du chapitre 2 au chapitre 4. On peut dire qu'on découvre un corps en pleine forme, en bonne santé, qui se multiplie. Les chapitres avant notre chapitre 5. Et voilà tout d'un coup quelque chose qui surgit avec l'objectif que cette multiplication, bénédiction, n'aille pas plus loin. Il y a une condition qui s'est introduite dans ce corps qui rend la multiplication impossible. Alors donc, j'aimerais faire deux lectures, Actes 5, 1 à 11, si vous avez vos Bibles. Et en arrière-fond, je vais lire trois versets de Hébreux 12. En résumé, l'Ancien Testament, c'est la parole de Josué au moment d'une reprise, l'entrée dans la terre promise. Je place devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Et ici, dans les termes du Nouveau Testament, on peut dire, ne vous privez pas, que personne ne prive de la grâce de Dieu. Je propose d'écouter. D'abord, je lis Hébreux 12, 13 à 15. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri de l'image médicale. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, toujours dans notre image médicale. Et puis on arrive à Actes 5, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ, pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui la prirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra, sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?»« Oui, » répondit-elle, « c'est bien ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute ceux qui viennent d'enterrer ton mari, sont devant la porte et ils vont t'emporter, toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. On avait dit par rapport au texte l'été qu'il y en avait plusieurs qu'on n'aurait pas choisi. On pourrait dire de même notre texte d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut en faire? le danger de l'infection que, attention, que plusieurs n'en soient point infectés, selon notre texte parallèle en hébreu. Les médecins d'aujourd'hui et d'hier, j'imagine, sont devant un grand dilemme. S'ils ont quelqu'un de gravement malade qui se présente, est-ce qu'il faut leur dire directement que tout va très mal? Certaines fois, on entend dire que la famille qui dit, mais il faut surtout pas l'avertir. Est-ce qu'il faut dire que tout va bien si tout va mal? Donc, on peut signaler l'honnêteté du récit biblique qui, ici, dit les choses très directement. On préférerait avoir le verset suivant que j'ai pas lu, 5:12, qui parle des signes et des prodiges qui s'opéraient par la main des apôtres. Mais la Bible choisit de retenir aussi cet événement. Quel est le diagnostic à poser? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Alors, il y a un mot dans le verset 2 et le verset 3 qui se trouve que ici dans le Nouveau Testament et un endroit ailleurs. Pourquoi vous êtes mis d'accord de retenir verset 2 et verset 3? Ce mot ailleurs est traduit détourné. Et dans la traduction de l'Ancien Testament, de traduction grecque, le même mot est utilisé dans l'histoire d'Achan. Vous vous souvenez, la personne, quand le peuple de Dieu entrait dans la terre promise, il fallait rien prendre comme butin, mais il s'est laissé tenter par de très jolis vêtements de Chénéar, et en plus un peu d'or qu'il a trouvé sous sa main. Sinon, c'est en Tite 2:10 où il s'agit de voler. Alors ça nous met sur une piste que les choses ne sont pas tout à fait comme elles devraient être. Un mal a fait son entrée dans le corps. Que faire? Son origine, l'origine du mal, est clairement définie au verset 3. Comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Il y a une porte qui s'est ouverte. C'est là où j'ai le défi, je suis nul en informatique, donc c'est avec un transparent que je vais essayer d'illustrer ce que je vais vous dire. Vous allez être patient avec moi parce que c'est pas très réussi, mais voilà. Donc la Bible dit, ne laissez pas d'accès au diable. Ne laissez pas d'accès au diable. Alors, nous voilà là au milieu, et on est dans un espace, c'est mal dessiné parce que l'espace devrait être très très grand. On est dans un espace de liberté, et vous voyez que les portes de sortie de cette liberté, les poignées sont toutes de notre côté. Mais qu'est-ce qui se passe si on ouvre une porte d'accès? C'est tout ce que c'est ce que j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin. La tentation pour Ananias et Saphira, ils sont dans une ambiance où c'est tout la bénédiction de Dieu est apparente, et en réponse, il y a une grande générosité parmi les croyants. C'est la fin du chapitre 4. Et puis, cet homme, Joseph, alors, il apporte de l'argent aux apôtres, et Ananias et Saphira en entendent, mais on va le nommer Barnabas, le fils d'encouragement. Alors, ils disent, mais voilà comment nous, de notre côté, on va entrer dans cet éloge. Et puis, ils se mettent d'accord ensemble, sans aucune pression de qui que ce soit, de dire, mais nous avons ce bout de terrain. Si on le vend, et si on donne quelque chose, nous aussi, on va être en avant. On va être considéré comme quelqu'un dans la communauté. Donc, la tentation de cette leur porte qui s'ouvre, c'est de paraître, être ce qu'ils ne sont pas de cœur. Et ça les amène un pas suivant, détournement de fond, selon le mot utilisé. Détournement de fond, mensonge, verset 4, menti à Dieu. Bref, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est là où Satan veut les conduire dans la première tentation de paraître. L'hypocrisie, on sait tout ce que c'est quand il y a de belles paroles qui ne correspondent pas aux sentiments de notre cœur. Comme des nuages sans pluie, c'est la personne qui se vante de sa libéralité quand il n'y en a point, dit les proverbes. C'est la reproche qu'on entend lancée à l'Église. Ah, mais les gens qui vont à l'Église le dimanche, vous avez vu comment ils vivent en semaine? L'hypocrisie, c'est ce que le Seigneur Jésus a attaqué avant tout. Vous voyez les scribes et les pharisiens, ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font parce qu'ils le disent et ils ne font pas. Alors notre médecin, donc ça vous allez pas pouvoir le lire, mais c'est paraître, exagérer et mentir. C'est vraiment pas lisible, donc je vais l'éteindre pour le moment. Le bon médecin va consulter ses livres, le Lancet, et puis il va dire, mais est-ce qu'il y a des antécédents à ce mal qui est entré dans le corps? Et il va trouver le cas Achan, que j'ai évoqué, cet homme qui a fait semblant et qui a caché sous sa tente les biens qu'il n'aurait pas dû retenir. Il va regarder un peu plus loin et il va découvrir le cas David, cas classique, des choses cachées qui doivent être apportées à la lumière. Et ensuite entre dans son manuel le cas Ananias et Saphira. Et il constate que le cas Achan touchait toute la communauté. Le cas David touchait toute sa famille. Tandis que ici, on arrive à un cas qui entre dans les annales, qui touche plutôt la personne individuellement. Saphira avait la possibilité de marcher dans la lumière. Elle a choisi de ne pas le faire quand Pierre l'a confrontée. Le ver, en tout cas, est entré dans la pomme. Et le danger, c'est que plusieurs en soient infectés, selon notre texte des Hébreux. le danger de l'infection. Maintenant, pour le choix de traitement. La question que vous devez entendre, les médecins, est-ce grave, docteur? Est-ce grave, finalement? Parce que pour ce texte, combien on pourrait entendre des objections? Pourquoi l'intervention est si radicale, fatale pour le corps? Je rappelle la situation où nous sommes arrivés en acte 5. Fin chapitre 4, verset 32, ils étaient tous dans l'unité de cœur et d'esprit. Une parfaite unité régnait dans la communauté. Il y a une grande générosité qui est exercée. Peut-être glisser des histoires d'argent là-dedans, ça pourrait être utile. La grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. 4:33. Et maintenant, comme j'ai dit, le ver est dans la pomme. Ce qui est clair dans toute la Bible, c'est que Dieu déteste l'hypocrisie. Et ici, c'est l'Église naissante qui en est menacée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au verset 11, le dernier verset qu'on a lu, c'est pour la première fois que la communauté des croyants est appelée Église. C'est un début essentiel. Quelles seront les suites? Tout comme Achan était un début essentiel d'une nouvelle étape, entrer dans la terre promise. En tout cas, nos médecins nous diraient que de ne rien faire, dans les deux cas, courait le risque d'une contamination généralisée du corps. Je ne suis pas médecin, mais j'espère que je suis sur la bonne piste. Impossible donc de simplement fermer l'œil. J'aimerais dire que notre passage n'est pas une invitation, une discipline d'une sévérité extrême dans l'Église. C'est un travers où l'Église est tombée. Mais ce n'est pas une invitation non plus à une attitude à tout tolérer. Saphira, je l'ai dit, à son arrivée, avait une deuxième possibilité d'opter pour la lumière, la transparence. Tragiquement, elle a choisi de se priver, selon notre verset en hébreu, de se priver de la grâce de Dieu. Le pardon offert qui est toujours disponible. Et la crainte s'empare de toutes les personnes présentes. Avec Roger, on s'est posé la question, mais à cette crainte, à quoi c'est dû? Ça m'a fait penser à un événement où, tout frais dans le ministère, nous sommes partis en France, côté de Lyon, et puis il y avait une mainmise dans cette église, où un jour, on s'est réunis à plusieurs avec la personne concernée qui faisait semblant que les choses étaient tout autres qu'en réalité sa manière d'agir. On était six personnes, dont deux médecins. Tout d'un coup, il a perdu la vue. Il a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne vois plus. Par la suite, il a retrouvé la vue, mais ce n'était pas d'un instant à l'autre. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne vois plus. Vous imaginez que dans un tel événement, la crainte s'empare de toutes les personnes présentes. Esclave, docteur, quel doit être le choix de traitement? Et maintenant, c'est là où je veux arriver, l'offre de guérison. Bien sûr, l'important, c'est de ne pas ouvrir des portes. J'ai essayé d'illustrer d'autres portes qui peuvent s'ouvrir. Quelque chose de tout neutre comme l'informatique, mais ça peut, l'étape suivante, oublier ses responsabilités, étape suivante, visiter des sites douteux, et puis la finalité, ne donnez pas accès au diable, c'est là où il veut conduire, une dépendance. La porte pour quelqu'un d'autre, hein? Peut-être que c'est la langue, domaine de notre tentation. De glisser, la langue est tout à fait neutre, bien sûr, mais de glisser dans les critiques, commérages, parler d'autres personnes, arriver à des propos empoisonnés, assassinat de caractère. Dans le cas de David, porter un regard, faire venir, adultère, foyer brisé, regret amer. La tentation du diable, c'est de mettre la main sur la poignée pour qu'il puisse nous conduire toujours plus loin. L'exhortation, ne donnez pas accès au diable. Mais maintenant, on veut aborder l'offre de guérison. L'offre de guérison, c'est faire un choix de transparence pour que la porte puisse se refermer. Un pas incontournable vers toute guérison, reconnaître qu'on est malade, l'accepter, et collaborer au traitement. Il y a des rencontres de guérison, et je ne suis pas contre, bien sûr, mais si c'est un prononcement magistral, maintenant tu es guéri, mais la personne n'a rien changé de son côté, peut-être un pardon à demander, une réconciliation à vivre, quelque chose à restituer, la bénédiction va disparaître comme rosée au soleil. On doit collaborer dans la mesure que ça revient à nous, à notre guérison. Alors voilà le choix de traitement qui est proposé. Faire semblant, comme Ananias et Saphira, tout va bien, oui c'est comme ça, ou faire demi-tour. Opter pour l'obscurité, comme Achan, avec ses choses enfouies sous sa tente, ou s'ouvrir à la lumière. Risquer le jugement à venir, recevoir la grâce du pardon. Finalement, c'est rester esclave ou repartir libéré. Et c'est la différence entre le cas Ananias et Saphira et le cas David. Il y a une seule différence, il me semble. David a choisi de reconnaître sa faute. C'est c'est pas que c'était moins grave, c'était sans doute plus grave. Il a choisi le chemin de la lumière. J'ai péché contre toi. Mais pour conclure, le parallèle serait pas complet si je parlais pas de la facture. Dans mon passé peu glorieux, j'étais barman pendant une période dans une boîte de nuit en France. Les consommations étaient excessivement chères. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, je ne fréquente plus ces lieux. Il y avait quelqu'un qui venait très souvent, qui était très aisé. Et donc le prix ne faisait aucune différence. Mais il avait un petit frère qui, lui, faisait le service militaire, qui venait très occasionnellement quand il avait un congé. Ce soir-là, à l'insu du cadet, l'aîné vient me signaler: tu laisses boire mon frère tout ce qu'il veut et tu mettras sur mon compte, j'ai de quoi régler à la sortie. Donc à la fin de la soirée, c'était le moment de régler. Le cadet vient vers moi et fait la découverte. Il y a eu une somme d'argent mise à disposition, largement suffisant, même pour ce que lui, il avait bu. C'est peut-être pas très élégant comme comparaison, mais à la sortie, nous pouvons faire la découverte qu'il y a une somme qui était versée suffisante pour couvrir, pour régler tout ce que nous avons fait. On ne peut pas dépasser la somme qui était mise sur pour couvrir les frais de notre compte. Nous avons un grand frère qui a tout réglé d'avance. La facture est payée. Pourquoi se priver de la grâce de Dieu? Je place devant vous la vie et la mort. C'est un cri de cœur. Choisissez la vie. Amen.
J'abandonne sur ton autel en réponse. à ton appel, mes besoins, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant.